chikungunya, le précédent français des maladies post-infectieuses chroniques. Quand une courbe épidémique redescend, la maladie ne disparaît pas toujours avec elle. À La Réunion, le chikungunya de 2005 à 2006 a laissé un précédent français majeur. Une infection directement arthritogène, mais aussi un tableau post-infectieux plus large, avec fatigue, céphalée, humeur altérée et qualité de vie durablement diminuée. 2005 à 2006. Un tiers de La Réunion touchée. Le précédent réunionnais commence par un paradoxe classique. L'épidémie se termine administrativement, mais une partie des personnes ne récupère pas complètement. En 2005 à 2006, La Réunion a connu une épidémie majeure de chikungunya. L'étude de coûts publiée par Soumaoro et ses collègues rappelle que la surveillance avait estimé environ 266 000 cas, soit près d'un tiers de la population de l'île. Une enquête de séroprévalence conduite après l'épidémie rapportait environ 38% de personnes avaient des anticorps, ce qui confirmait l'ampleur de l'exposition. Ce point est important. La Réunion est un département français intégré au système sanitaire national. Le chikungunya y a donc constitué, en France, un avertissement direct sur les conséquences chroniques possibles d'une infection massive. Le nom même de la maladie orientait déjà le regard vers les articulations. L'OMS rappelle que le terme vient du kimakonde et renvoie à la posture courbée de personnes souffrant de douleurs articulaires sévères. Cette étymologie n'est pas une preuve médicale. Elle dit seulement que la dominante douloureuse et articulaire était visible avant même les grandes cohortes modernes. La question sanitaire aurait donc dû apparaître très tôt. Que deviennent les personnes qui ne récupèrent pas après la fièvre? Cette question reste actuelle. Le chikungunya est revenu massivement à La Réunion en 2025. L'ARS rapportait 54 555 cas confirmés et 43 décès depuis le début de l'année au 5 décembre 2025. Ces 54 555 cas confirmés ne sont pas directement comparables aux 266 000 cas estimés en 2005 à 2006. Les méthodes, le contexte de surveillance et le statut sérologique mesuré ne sont pas les mêmes. Une épidémie peut être terminée du point de vue de la transmission, tout en laissant une charge durable pour une partie des personnes infectées. L'œil du docteur en pharmacie. Une donnée d'incidence ne suffit jamais à décrire la charge réelle d'une infection. Pour les maladies post-infectieuses, il faut aussi regarder la durée des douleurs, la fatigue, l'impact social, la consommation de soins et la capacité à reprendre une vie normale. Après la fièvre, deux visages chroniques. Le chikungunya chronique ne se résume pas à une seule catégorie de douleurs. On parle généralement de phase chronique lorsque les manifestations persistent au-delà de 3 mois, même si les définitions varient selon les études et les recommandations. Le premier visage est articulaire. Après la phase aiguë, certaines personnes décrivent des arthralgies, c'est-à-dire des douleurs articulaires sans inflammation nécessairement objectivée. D'autres présentent des signes plus inflammatoires. Raideur matinale prolongée, gonflement, chaleur, synovite, parfois tableau proche d'un rhumatisme inflammatoire chronique. Le deuxième visage est plus large. Les suivis à distance rapportent aussi fatigue persistante, céphalée, sommeil perturbé, humeur dépressive, limitation sociale et qualité de vie dégradée. Ce tableau ne remplace pas la dominante articulaire du chikungunya. Il l'élargit. Il faut donc éviter un glissement de vocabulaire. Arthrite chronique ne doit pas devenir le synonyme de toutes les douleurs post-chikungunya. Une douleur articulaire peut être inflammatoire, mécanique, liée à une récupération incomplète, ou présenter à distance des caractéristiques neuropathiques ou de sensibilisation du système nociceptif. L'absence de synovite ne suffit toutefois pas à conclure à une douleur nociplastique. La douleur post-chikungunya peut être articulaire sans être toujours une arthrite active. La fatigue prolongée peut coexister avec les douleurs sans être leur simple conséquence mécanique. Avertissement. Une articulation brutalement très douloureuse, rouge, chaude ou gonflée, surtout avec fièvre, frisson ou impossibilité de la mobiliser, nécessite une évaluation rapide. À l'inverse, toute douleur post-infectieuse ne correspond pas automatiquement à une arthrite inflammatoire. Ce que montrent réellement les cohortes. Les cohortes ne racontent pas toute la même chose, parce qu'elles ne recrutent pas les mêmes personnes. Le point clé est méthodologique. Rhumatochique ne signifie pas que 83,1% de toutes les personnes infectées développent des douleurs chroniques. Cette cohorte était composée de personnes déjà douloureuses, recrutées dans un cadre rhumatologique. L'étude précise aussi que seules 122 personnes avaient une confirmation sérologique et que les rhumatismes inflammatoires préexistants avaient été exclus. Selon les études, les manifestations rhumatismales persistantes sont souvent rapportées dans une fourchette large, autour de 17 à 53%. Une revue systématique de 2025 sur les manifestations de la phase chronique rappelle que l'arthralgie domine, mais que fatigue, troubles du sommeil, myalgie, troubles digestifs, atteintes cutanées ou humeurs dépressives peuvent aussi être rapportées. Cette dispersion n'est pas un détail statistique. Elle reflète des définitions différentes, des durées de suivi différentes, des populations plus ou moins sélectionnées, et une part variable d'autodéclaration. Prudence d'interprétation. Plus le recrutement cible des personnes déjà symptomatiques, plus la fréquence apparente des séquelles augmente. Pour parler de risque populationnel, il faut privilégier les cohortes populationnelles ou les groupes comparatifs, pas les séries spécialisées seules. Les résultats ne se contredisent pas forcément. Ils décrivent des populations et des questions différentes. À retenir en pratique. Quand vous lisez une statistique post-infectieuse, demandez toujours. Qui a été inclus, à quel moment, avec quelle définition, et avec quel groupe de comparaison? Sans ces quatre réponses, le chiffre peut être vrai et mal interprété. Une infection à dominante articulaire. Le chikungunya est un virus arthritogène, mais la chronicité ne se résume pas à un biomarqueur unique. Les mécanismes étudiés doivent être séparés en plusieurs niveaux. Observations humaines, modèles animaux, profils cytokiniques circulants et biomarqueurs pronostiques. Les travaux décrivent un tropisme articulaire du chikungunya, un recrutement de monocytes et de macrophages, une inflammation synoviale, et des médiateurs comme IL-6, I8, MCP1, IP10 ou d'autres cytokines et chimiokines. Chez l'humain, les preuves de persistance locale restent rares et hétérogènes. De l'ARN et des protéines virales ont notamment été retrouvées dans des macrophages synoviaux chez une personne 18 mois après l'infection. Ce résultat ne permet pas d'en estimer la fréquence. Dans rhumatochique, à l'inverse, la recherche du génome viral par RT-PCR était négative dans les petits échantillons de liquide articulaire et de tissu synovial étudiés. Les modèles animaux renforcent la plausibilité biologique, sans la transformer en preuve générale chez l'humain. Une étude Nature Microbiologie publiée en 2026 chez la souris a montré que des macrophages associés aux articulations pouvaient héberger de l'ARN viral compatible avec une réplication persistante. Un inhibiteur de la réplication réduisait l'ARN viral et l'inflammation articulaire dans ce modèle. Cela soutient un mécanisme possible pour certaines situations, pas une explication unique de toutes les douleurs chroniques post-chikungunya. La revue systématique de Lozano Parra et collègues est utile parce qu'elle refroidit les conclusions trop simples. Elle retrouve des signaux immunologiques, mais aucun ensemble univoque de biomarqueurs permettant de prédire les séquelles articulaires à long terme. Une seule des deux études pronostiques incluses retrouvait des différences cytokiniques prédictives à long terme. Chikungunya et Covid long. Une même leçon post-infectieuse, des profils différents. Le rapprochement est pertinent sur le plan historique, mais dangereux s'il efface les différences biologiques. Le point commun est évident. Dans les deux cas, une infection aiguë peut être suivie de symptômes prolongés, hétérogènes, parfois invalidants, avec douleur, fatigue, limitation fonctionnelle, absence de biomarqueurs validés permettant, à lui seul, de caractériser la chronicité et reconnaissance difficile. L'article pilier sur les pandémies post-infectieuses le rappelle. Le Covid long appartient à une histoire plus ancienne des séquelles infectieuses, pas à une catégorie totalement nouvelle. Mais les différences comptent. Le chikungunya a un tropisme articulaire beaucoup plus caractéristique. Les synovites et rhumatismes inflammatoires objectivables appartiennent à une partie du tableau. Le Covid long est généralement plus multisystémique, avec dans certains phénotypes une place plus centrale de la dysautonomie, des troubles cognitifs et du malaise post-effort, proche de certains repères discutés dans les articles sur le malaise post-effort et l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique. La comparaison correcte n'est donc pas. Le chikungunya et le Covid long ont le même mécanisme. La comparaison correcte est. Deux infections différentes montrent que la fin de la phase aiguë ne suffit pas à mesurer la fin réelle de la maladie. Une leçon encore imparfaitement traduite en santé publique. Le problème n'est pas l'absence totale de données, mais leur faible pouvoir de transformation sanitaire. Il serait faux d'écrire qu'aucune cohorte longitudinale n'existait. Rhumatochique, téléchique et le suivi des gendarmes prouvent le contraire. Des équipes françaises ont documenté les suites articulaires, la fatigue, la qualité de vie et les limitations prolongées après l'épidémie réunionnaise. La faille est ailleurs. Les données sont restées fragmentées. Leur traduction en surveillance systématique et en parcours dédié paraît être restée limitée. Cette observation relève davantage d'une lecture des priorités sanitaires que d'un résultat directement mesuré par les cohortes. Ce précédent aurait pu apprendre une chose simple. Une infection massive ne laisse pas seulement une courbe épidémique, elle peut laisser une cohorte invisible de personnes qui continuent à vivre avec des symptômes. Ce n'est pas une causalité historique démontrée entre chikungunya et Covid long. C'est une leçon de santé publique. Mesurer la phase aiguë ne suffit pas. En pratique, quand une douleur persiste après une infection, observer précisément ne remplace pas une évaluation médicale, mais évite de tout mettre dans le même mot. Si une douleur persiste après une infection, les questions utiles sont concrètes. La douleur est-elle seule ou l'articulation est-elle vraiment gonflée? Existe-t-il chaleur ou rougeur? La raideur du matin dure-t-elle longtemps? Les symptômes sont-ils symétriques? La limitation fonctionnelle progresse-t-elle? L'évolution est-elle continue ou par poussée? La fatigue, le sommeil, les céphalées ou l'humeur changent-ils en parallèle? Ces repères ne disent pas que toute douleur post-infectieuse est une arthrite. Ils aident le professionnel de santé à orienter l'évaluation entre douleurs articulaires simples, inflammation objectivable, troubles musculosquelettiques mécaniques, douleurs neuropathiques ou sensibilisation nociceptive. Le lien avec la fibromyalgie doit être compris ainsi. Non comme une conséquence automatique du chikungunya, mais comme un mécanisme de douleur à distinguer. Même prudence pour l'hypermobilité, qui peut compliquer l'interprétation des douleurs sans prouver un lien causal spécifique. Une articulation brutalement très douloureuse, rouge, chaude ou gonflée, surtout avec fièvre, frisson ou impossibilité de la mobiliser, nécessite une évaluation rapide. Une raideur matinale ou dégonflement persistant plusieurs semaines justifie aussi une consultation médicale, éventuellement rhumatologique. Ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Fait établi. Le chikungunya peut laisser des manifestations prolongées, surtout articulaires. Plusieurs cohortes observationnelles convergent aussi vers une charge de fatigue, céphalée, humeur altérée et qualité de vie diminuée. Hypothèse étayée. La chronicité semble impliquer inflammation articulaire, activation immunitaire prolongée, recrutement cellulaire local et susceptibilité individuelle. Ces mécanismes ne forment pas encore un test clinique simple. Spéculation. Il ne faut pas affirmer qu'un profil cytokinique validé explique toute la chronicité, ni que chikungunya et Covid long reposent sur le même mécanisme. La comparaison est historique et physiopathologique prudente. Ce qu'il faut retenir. Le chikungunya de la Réunion n'est pas seulement une archive tropicale. C'est un précédent français d'une infection massive capable de laisser douleurs articulaires, fatigue et handicap bien après la fin officielle de l'épidémie. Sa dominante articulaire est plus nette que celle du Covid long, mais la leçon commune reste forte. La surveillance sanitaire doit regarder la durée réelle de la maladie, pas seulement la phase aiguë. Que faire concrètement avec cet article ? Décrire l'articulation. Douleur seule, gonflement, chaleur, rougeur, raideur matinale, symétrie et limitation fonctionnelle. Suivre le reste du tableau. Fatigue, sommeil, céphalée, humeur, activité sociale et retentissement quotidien. Demander un avis si nécessaire. Une articulation brutalement très douloureuse, rouge, chaude ou gonflée, surtout avec fièvre, frisson ou blocage, doit être évaluée rapidement. Information à visée éducative, non substituable à un avis médical individualisé.